Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vie et mort de Vincent Lambert, ça fait 3 fois qu'il passe de l'une à l'autre. Les médecins qui avaient arrêté ses traitements hier vont devoir les reprendre. Ainsi en a décidé la cour d'appel de Paris à la demande des parents de cet homme dans un état irréversible. Selon ses médecins, on essaiera de comprendre cette décision dans un instant qualifiée de sadique par le neveu de Vincent Lambert. Combien pour les Verts aux élections européennes seront-ils dopés par les combat du moment pour le climat? Si c'est vrai en Allemagne ou en Belgique, on va voir que ça l'est moins pour les Verts français. À 8h20, suite de la quinzaine européenne de France Inter avec...
Avec la tête de liste Rassemblement National, Jordan Bardella. Vous pourrez l'interroger, dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
À la une également l'inquiétude des ex-Alstom de Belfort. Ils manifestent ce matin dans la crainte d'un dégraissage de General Electric. La mort de Niki Lauda, le champion aux deux vies avant et après son accident de Formule 1 en 76. Et Isabelle Huppert, minimaliste hier soir à Cannes dans un film américain en compétition avant que ne déboule Quentin Tarantino ce soir sur la croisette.
France Inter.
C'est une guerre d'éthique, une guerre sur le destin de Vincent Lambert dans laquelle ses parents viennent de remporter la dernière bataille. On va y venir dans un instant, mais puisqu'on parle de destin, voici un pays qui veut changer celui de ses habitants grâce à l'ADN. Ce pays, c'est l'Estonie qui a ouvert il y a 20 ans sa première banque publique d'ADN et qui veut aujourd'hui imposer la médecine prédictive pour tous. C'est une visite exceptionnelle que nous vous proposons ce matin dans cette banque aux 200 000 génomes, ce dingue un habitant sur 5, et ça n'est qu'un début, Thibault Lefèvre.
De l'azote dans 15 grandes cuves chromées et 3 frigidaires pour stocker à moins 15 degrés les 200 000 petites éprouvettes qui contiennent l'ADN des Estoniens. Parmi ces prélèvements transparents comme de la salive, celui de Marie, élève de terminale. Elle a donné son ADN il y a 6 mois sur les conseils pressants de sa professeure de chimie.
Notre professeur a décidé que nous devions tous sortir pour aller faire un don d'ADN. Ce n'était pas possible de refuser. Elle nous a dit que c'était pour le futur de l'Estonie. Maintenant, quand j'irai chez le docteur, il m'auscultera, puis regardera mon génome et il saura immédiatement ce qui ne va pas. C'est une grande avancée.
Une avancée qui devrait se concrétiser d'ici 3 ans quand tous les médecins du pays auront été formés à l'analyse du génome. Andrés Metzpalou est le responsable du projet.
La médecine a besoin de données génétiques pour anticiper d'éventuelles maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou la schizophrénie. La génétique a été stigmatisée et cette mauvaise réputation trouve son origine pendant la Seconde Guerre mondiale. La génétique ne va pas tout changer, mais c'est un simple instrument de plus à la disposition des médecins.
L'Estonie participe à un programme européen qui a pour objectif de collecter et partager 1 million de génomes de 20 pays d'ici 3 ans. La France, elle, se donne seule 3 ans de plus pour en prélever le quart.
La France témoin de cette déchirure, Florence, autour du sort d'un homme.
Vincent Lambert, maintenu artificiellement en vie depuis un accident en 2008. Sa femme et son neveu pensaient l'accompagner pendant ses derniers jours après l'arrêt de ses traitements entamés hier, ce qu'il demande depuis 6 ans. Mais ses parents, qui s'y opposent, ont obtenu gain de cause dans la nuit devant la cour d'appel de Paris et les perfusions vont être remises en route pour la 3e fois depuis le début de l'affaire. On a entendu la joie de leur soutien dans le journal de 7h qui fait face à l'immense désarroi du neveu de Vincent Lambert. Lisa Guyenne était avec lui quand la décision est tombée.
Un jour sans fin, l'impression d'un éternel recommencement. Hier soir, François Lambert, le neveu de Vincent, a vécu cette annonce comme un coup de massue.
C'était la première fois que je pensais vraiment que ça allait se faire. Les autres fois, je n'y croyais pas du tout. Là, c'est la première fois, je me disais, c'est pas possible que ça se fasse pas. Mais je suis totalement abasourdi, j'en reviens pas. Voilà.
Abasourdi et en colère aussi, François Lambert a dénoncé les méthodes des parents de Vincent, la médiatisation de l'affaire à travers des rassemblements hier soir et dimanche, et la publication sur Internet hier d'une vidéo montrant Vincent sur son lit d'hôpital.
C'est du sadisme pur, moi je comprends pas qu'on puisse être aussi barbare avec son fils sans jamais se poser la moindre question. S'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut arrêter les traitements de Vincent, c'est... peut-être pas parce qu'ils sont naturellement du côté de la mort, c'est peut-être qu'ils ont fait une réflexion tout simplement et que peut-être que les parents de Vincent pourraient essayer aussi à leur tour de faire une réflexion au lieu d'agir comme ils agissent. Quoi.
François Lambert dénonce une décision militante plus que juridique. Son avocat maître Gérard Chemla met en doute l'impartialité de la cour d'appel.
On a le sentiment que finalement nous ne sommes plus dans un problème de droit mais qu'on est dans un problème de conviction des magistrats. Et l'impression que ça donne c'est que les parents Lambert ont trouvé des juges qui partagent leurs opinions éthiques et qu'on est sortis du domaine juridique.
Maître Chemla souhaiterait désormais que l'Assemblée nationale se saisisse de l'affaire. Les proches de Vincent Lambert qui demandent l'arrêt des soins vont en tout cas préparer la riposte juridique dès ce matin. Reims, Lisa Guyenne, France Inter.
Alors vous l'avez entendu, les accusations de l'avocat de François Lambert sont lourdes contre les juges. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Florence.
Comment ont-ils motivé cette décision inattendue ?
Alors ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est que ce n'est pas une décision sur le fond de l'affaire. La cour d'appel ne se prononce pas sur le bien fondé de l'arrêt des traitements de Vincent Lambert. Ce qu'elle ordonne, ce sont des mesures provisoires. Début mai, les parents de Vincent Lambert ont saisi le comité des droits des personnes handicapées. Cet organisme rattaché aux Nations Unies a demandé à la France de continuer l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert le temps d'examiner leur recours. Alors le gouvernement pensait que cette demande n'était pas contraignante, mais ont estimé les juges, la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ce texte définit les compétences du comité. Le gouvernement doit donc honorer sa signature. Alors c'est une première, aucun tribunal en France n'avait jusqu'alors estimé que les demandes du comité des droits des personnes handicapées étaient contraignantes. Il faut dire que le cas Vincent Lambert est unique. Les magistrats ont en quelque sorte choisi un principe de précaution. Garder Vincent Lambert en vie le temps que ce recours puisse être examiné sans préjuger de ce qui sera décidé à la fin.
Alors Corinne, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Quelle riposte possible du côté de l'épouse et du neveu de Vincent Lambert ?
Alors l'État et le CHU de Reims peuvent se pourvoir en cassation. Vu la question juridique soulevée par cette décision, c'est probable. Mais ce pourvoi n'est pas suspensif. L'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert vont donc reprendre pour au moins 6 mois, le temps de l'examen de ce pourvoi en cassation, et peut-être pour plusieurs années s'il faut attendre l'avis du comité des droits des personnes handicapées. Les parents de Vincent Lambert ont donc gagné un nouveau sursis dans la bataille qui déchire leur famille depuis maintenant 6 ans.
Corinne Audouin, merci. En attendant, l'avocat de Rachel Lambert, l'épouse de Vincent Lambert, annonce ce matin sur France Info qu'il va porter plainte après la diffusion d'une vidéo de Vincent Lambert filmée par sa mère, vidéo diffusée par le site Valeurs Actuelles hier. 1 300 000 euros pour une victime de la Dépakine. C'est l'une des premières indemnisations du fonds mis en place par l'État, selon le Parisien aujourd'hui en France, qui concerne un garçon de 20 ans, handicapé parce que sa mère a pris cet anti-épileptique pendant sa grossesse. 15 à 30 000 bébés ont été exposés aux médicaments dans le ventre de leur mère. Et puis 8 syndicats des hôpitaux de Paris appellent à la grève de jeudi soir à samedi matin, comme en avril. Ils réclament de véritables négociations sur l'emploi, les salaires et les restructurations en cours.
Il est 8h08, Florence. Il veut être acteur de l'élection européenne.
La plus importante depuis 1979, dit Emmanuel Macron à la presse régionale ce matin, à 5 jours du scrutin. Il en va de l'existence même de l'Europe, selon le chef de l'État, qui constate que toutes les autres listes font de ce vote un référendum contre sa personne. Parmi elles, Europe Écologie Les Verts est en train de clore sa campagne. Il y aura un dernier meeting ce soir au Cirque d'hiver à Paris. Profiteront-ils les Verts de la vague de contestation sur le climat des derniers mois ? C'est loin d'être acquis, Éric Biégala, à la différence des autres écolos européens.
Les Verts français pourraient faire un peu mieux dimanche prochain qu'en 2014. On leur promet en effet 7 élus au lieu de 6 actuellement. Les Verts allemands, de leur côté, risquent de faire beaucoup mieux. La même moyenne de sondage d'intention de vote leur donne en effet 19 élus contre 13 dans le Parlement sortant. Les Grünen profitent non seulement de la campagne des derniers mois sur le climat, très suivie dans les pays d'Europe du Nord, mais aussi d'une dynamique propre qui a vu leur candidat percer dans les dernières consultations régionales en Bavière et en Hesse. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'ils envoient au Parlement européen davantage d'élus que les sociaux-démocrates. Les Verts ont également le vent en poupe aux Pays-Bas ainsi qu'en Belgique, surfant manifestement sur la même vague de contestation climat, mais ne devraient pas envoyer à Bruxelles plus de 3 ou 4 députés respectivement pour chaque pays. Les sondages d'intention donnent en revanche 10 élus britanniques qui pourraient siéger dans les rangs des Verts, sauf que, Brexit oblige, ceux-ci ne siégeront pas longtemps à Bruxelles, voire pas du tout. Au total, les Verts européens peuvent espérer compter 57 élus contre 52 actuellement, mais en importance numérique, ils ne seront jamais que le 6e groupe au Parlement européen.
La campagne des Verts ailleurs en Europe, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Les ruptures conventionnelles pour les fonctionnaires validées à l'Assemblée hier soir, expérimentées pendant 5 ans sur le modèle du privé. Elles prévoient des primes de départ et une allocation de retour à l'emploi pour les agents qui choisiront de partir. À Belfort, les salariés de General Electric sont de sortie ce matin. Ils accompagnent une très grosse turbine à gaz de 120 mètres. Elle est en train de quitter les ateliers. Ils l'accompagnent pour dire leur inquiétude quant à leur avenir, la menace qui plane autour de leur activité rachetée par Alstom il y a 4 ans. Bonjour Raphaël Ebenstein.
Bonjour Florence.
Il se trouve que des rumeurs font état de 500 à 1000 suppressions de postes qui seraient annoncées après les européennes.
Oui, le moral des salariés est un peu à l'image de la météo ce matin à Belfort. Grisaille et bruine, beaucoup d'inquiétudes à laquelle se mélange une forme de colère contre l'État, accusé de ne rien faire, contre la direction de General Electric, GE, qui n'a à leurs yeux aucune stratégie, n'a qu'une vision comptable, financière. L'action de ce matin, qui va donc commencer d'ici quelques minutes, est hautement symbolique. Vous l'avez dit, l'accompagnement du convoi transportant une turbine à gaz géante de 120 mètres, la plus grande produite au monde à la sortie des ateliers. Le convoi est déjà prêt devant le site. Il y a aussi la présence des forces de l'ordre. Seulement quelques salariés pour le moment. Les syndicats réclament des investissements pour la diversification du site. Le temps que le marché des turbines à gaz aujourd'hui en recul rebondisse, ça pourrait être par exemple dans l'aéronautique. Un message que les élus locaux du territoire de Belfort devraient aussi tenter de faire passer demain à l'Élysée, où ils seront reçus par un conseiller d'Emmanuel Macron, même si l'annonce d'un plan de restructuration portant sur peut-être 800 voire 1000 postes est redoutée juste après les élections européennes. Peut-être dès le début du mois de juin.
Raphaël Ebenstein en direct de Belfort. Un sursis pour Huawei. Les États-Unis laissent encore 3 mois aux géants chinois des smartphones pour utiliser des composants et des logiciels américains, alors que des discussions sont en cours avec Google, qui avait annoncé hier la fin de sa collaboration avec Huawei. Vous allez tout comprendre grâce à Pieraski.
Dans quelques instants, oui. Il est 8h12, Florence en Libye, la bataille de Tripoli se poursuit.
Les forces du maréchal Haftar se heurtent toujours à la résistance des combattants loyalistes qui viennent de briser un tabou en révélant avoir reçu des munitions et des véhicules de combat fournis par la Turquie. Une énième violation de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU en 2011, alors que le conflit au Marwan s'internationalise chaque jour davantage.
En annonçant avoir reçu une trentaine de blindés directement livrés sur le quai du port de Tripoli, les forces du gouvernement d'Union nationale qui défendent la capitale ont révélé au grand jour un secret qui n'en était plus vraiment un. Parti de Turquie, ce bateau rempli d'équipements militaires n'est pas le premier à débarquer sur les côtes libyennes. À Misrata ou Benghazi, fief du maréchal Haftar, les cargos se succèdent depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les armes n'ont jamais vraiment cessé d'affluer, mais les livraisons pour toutes les parties du conflit se faisaient en toute discrétion, en raison de l'embargo imposé par l'ONU. Désormais, le soutien aux belligérants est assumé et fait craindre une dangereuse escalade, une situation qui profite d'abord aux djihadistes du groupe État islamique qui tire parti du vide laissé par les deux camps pour se reconstituer et multiplier les attaques. Daesh en a revendiqué 3 ces derniers jours en Libye.
Omar Waman, c'était une légende des circuits de Formule 1. L'Autrichien Niki Lauda est mort dans la nuit à l'âge de 70 ans. Triple champion du monde dans les années 70 et 80. Il avait frôlé la mort en 76, Xavier Monferrand.
Et c'est une image choc qui reste dans les têtes des fans de F1, mais pas seulement. Celle de Niki Lauda pris dans l'incendie de sa voiture. Lauda rescapé des flammes, mais le visage marqué par le feu. Il est donc décédé hier à 70 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé cette nuit aux médias autrichiens. Pour les plus jeunes, c'est le film Rush en 2013 qui a fait revivre au cinéma sa rivalité avec James Hunt. Et puis pour les plus anciens, c'est la détermination incarnée. Lauda qui sera sacré 3 fois champion du monde, deux fois chez Ferrari et puis 1 fois chez McLaren avec comme équipier un certain Alain Prost. Niki Lauda était revenu d'ailleurs sur son accident pour nos confrères de la radio-télévision suisse qui lui avait consacré un documentaire.
J'étais à un stade où je sentais que j'allais mourir. Vous le réalisez très bien si votre tête fonctionne normalement. Et j'avais le sentiment que la mort était tout près. La seule chose était que je ne voulais pas mourir, parce qu'à ce moment précis, j'ai eu peur de la mort. Il me fallait alors réagir, faire quelque chose pour éviter de mourir.
L'abnégation de Niki Lauda qui était revenu 6 semaines seulement après son accident, avec le visage marqué évidemment pour disputer le titre à son rival. Lauda qui pilotait aussi des avions, c'est sa deuxième carrière. Il avait fondé notamment la compagnie low cost Niki en 2004 avant de la revendre.
Merci Xavier Monferrand. Niki Lauda mort à 70 ans de sa vie. Ron Howard avait fait un film et nous voilà à Cannes avec Frankie, film signé Aira Sack, un réalisateur américain en compétition hier soir. Frankie, c'est Isabelle Huppert, célèbre actrice française dans le film. Elle est gravement malade, elle va passer ses dernières vacances avec ses proches au Portugal. Ce fut un jeu d'épure pour Isabelle Huppert.
Ça m'a donné le sentiment de ce que j'étais dans les films de Godard. Ça m'a ramené à Sauf qui peut la vie, un peu passion aussi. ce sentiment comme ça qu'on a de rien faire, d'être extrêmement minimaliste. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de jeu. Et à l'arrivée, il y a tout parce qu'il y a la force d'un sujet. Ça me fait penser à ces personnages tragiques. Enfin, c'est presque c'est Antigone, hein, dans la manière qu'elle a d'aller vers la mort. Car au fond, c'est aussi ce qu'il demande aux acteurs à Erasa, qu'il a une relation vraiment particulière aux acteurs. Il demande vraiment qu'il soit débarrassé de toutes les scories où très très vite, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas d'ironie, pas de second degré, là où éventuellement j'aurais pu en mettre. Parce qu'il y a parfois des moments drôles, mais les moments drôles se suffisent à eux-mêmes. Il n'a pas besoin de les indiquer, il n'a pas besoin que les acteurs les indiquent. Et c'est assez extraordinaire, comme c'est un film qui dit rien et qui dit tout.
Voilà, qui dit rien et qui dit tout. Isabelle Huppert avec Eva Béton. Aujourd'hui, place au bulldozer Tarantino. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio monteront les marches pour son film Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois à 8h16. La suite avec vous, Nicolas Demorand.
Merci Florence Paracuelos.